Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, le podcast qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, ce podcast est une production de Québec Oiseaux. Évidemment, on vous parle en confinement, dans ces circonstances assez particulières qui nous touchent tous, puis qui touchent évidemment les ornithologues amateurs de plein fouet. On ne vous cachera pas qu'on n'avait pas vraiment imaginé ces circonstances-là à la maison lorsqu'on a jeté les bases de cette balado-diffusion. Un des premiers intérêts que j'avais en pensant à ce projet, c'était de sortir, d'aller sur le terrain, rencontrer les gens qui se passionnent pour les oiseaux à travers la province, et là, évidemment, ce n'est pas possible. Qu'à cela ne tienne, on travaille très fort chez Québec Oiseaux pour pouvoir vous offrir une balado-diffusion sur une base régulière, malgré le confinement. Pour ce deuxième épisode, on a donc pensé à vous présenter un peu l'organisme qui est derrière la production de Tous aux oiseaux, donc Québec Oiseaux. Je vais donc faire une courte entrevue avec Jean-Sébastien Guénette, qui est biologiste et directeur général de Québec Oiseaux, et qui est peut-être la personne qui a le plus contribué à permettre à cette balado-diffusion de voir le jour, pour faire une courte présentation de ce qu'on espère que ça va devenir. Bien entendu, le mois de mai au Québec correspond dans presque toutes les régions à la plus belle période d'observation des oiseaux. C'est la migration de printemps, on a des grandes concentrations d'oiseaux migrateurs, beaucoup dans leur plumage nuptial qui est le plus coloré, le plus flamboyant. Ça peut sembler particulièrement difficile pour les observateurs d'oiseaux de rester dans nos régions. Au moment où plusieurs avaient des voyages ornithologiques planifiés, on se réjouissait de sortir, il allait faire beau, on allait pouvoir aller partout autour de chez nous observer les oiseaux. Heureusement, c'est aussi la période où vraiment il y a des oiseaux partout. On n'a pas besoin d'aller très loin pour avoir une belle diversité d'oiseaux magnifiques. C'est dans ce contexte-là que pour inciter les gens à faire de l'observation sans trop se déplacer, Québec Oiseaux et la scientifique en chef du Québec ont mis au point le programme des oiseaux à la maison. Le programme prend malheureusement fin le 15 mai, mais on va profiter du bilan de ce programme-là pour discuter avec la biologiste Marie-Hélène Haché de sciences citoyennes, d'outils disponibles pour identifier les oiseaux qu'il y a autour de vous, et bien entendu des meilleures façons de s'initier à l'ornithologie depuis votre balcon, dans votre cour, dans votre quartier, même si vous n'y connaissez rien. Il y a beaucoup de gens qui se ramassent avec du temps sur les mains parce qu'ils ne travaillent plus, les enfants sont à la maison, ils n'ont pas d'école. Donc, c'est vraiment un moment idéal pour commencer l'observation d'oiseaux. Alors, je rejoins évidemment chez lui Jean-Sébastien Guénette, qui est directeur général de Québec Oiseaux et qui est aussi la personne, en quelque sorte, qui a permis à ce podcast-là d'exister. Donc, bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Gaspard.
Alors, d'abord, j'aimerais ça que tu présentes peut-être un peu l'organisme, là, parce que j'en ai parlé la dernière fois, mais évidemment, comme directeur général, tu vas pouvoir nous donner un petit peu plus une idée de c'est quoi Québec Oiseaux, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait?
OK, bien, Québec Oiseaux, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de développer les oiseaux ornithologiques et de suivre et protéger les oiseaux du Québec. C'est un organisme qui existe quand même depuis 1981. En fait, on va fêter notre 40e anniversaire l'année prochaine. On commence à penser, en fait, on commence à le réaliser quand on commence à penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour souligner cet événement-là.
Oui, peut-être un grand rassemblement finalement là, en 2021 pour célébrer le 40e anniversaire.
Ben, ça serait le fun, surtout avec le confinement qu'on a depuis quelques semaines. Ça serait vraiment le fun, effectivement, d'avoir un grand rassemblement pour souligner ça. En théorie, nous, justement, on organise un congrès à tous les deux ans. 2021, normalement, on devrait en avoir un. Là, c'est sûr qu'on attend un peu de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois pour se lancer dans l'organisation. Mais c'est clair que si on peut organiser un congrès l'année prochaine, il va avoir une connotation spéciale, là, en lien avec le 40e anniversaire. Donc, ça a commencé en 1981. C'est cinq clubs qui étaient répartis un peu partout au Québec qui ont décidé de former une espèce de, je dirais, de coalition pour les représenter. Puis bon, ça a commencé comme ça. Après ça, il y a eu plusieurs clubs qui se sont créés, de sorte que maintenant, on est rendu avec 32 clubs régionaux dans pas mal toutes les régions du Québec, qui sont tous membres de Québec Oiseaux. Puis aussi, ben, on regroupe des membres individuels qui veulent ben, contribuer, soutenir des projets de développement du loisir ornithologique et de conservation des oiseaux. Sinon, on a d'autres activités, évidemment. Je pense que beaucoup de gens connaissent le magazine Québec Oiseaux. On a publié, on était un gros partenaire là, au niveau de la publication du deuxième atlas des zones nicheurs du Québec. C'est nous qui gérons le programme eBird Québec. On a d'autres projets de sciences participatives, pensant à SOS Pop, le suivi des espèces en péril. Donc, on touche un peu à tout ce qui touche aux oiseaux et à l'ornithologie au Québec.
Super. J'avais une question. Là, quand tu parles d'un club d'ornithologie, parce que là, tu dis qu'il y en a 32, peut-être que les gens qui nous écoutent n'ont pas nécessairement une idée de à quoi ça sert. Pourquoi faire partie d'un club d'ornithologie?
Mais les clubs d'ornithologie, c'est vraiment... L'objectif premier, c'est de regrouper les gens dans une région qui partagent une même passion, qui est dans notre cas l'ornithologie, l'observation des oiseaux. Puis les clubs, ce qu'ils offrent à leurs membres, bon, évidemment, c'est des calendriers d'activités. On pense surtout des excursions guidées puis des conférences. Certains clubs aussi qui organisent des activités sociales, des 5 à 7, des choses comme ça. La plupart des clubs publient un bulletin régional pour leurs membres là, où ils font part des observations de la région, de textes sur les oiseaux de leur région ou même de l'extérieur. Il y a des membres qui font un compte-rendu de voyage, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le genre de trucs très intéressants qui sont mis à la disposition des membres.
Puis, évidemment, moi, j'en ai parlé un petit peu dans le dernier épisode de ce qu'on voulait faire avec le podcast, de quel sujet on voudrait traiter. Mais peut-être que toi aussi, tu peux dire un peu c'est quoi la vision de Québec Oiseau du podcast pour que les gens sachent un peu à quoi s'attendre au cours des prochains mois quand on va sortir des épisodes.
Oui, bien, un peu comme toi, je suis un gros consommateur de podcasts, de balado. J'en écoute plusieurs. Je trouve que c'est super intéressant. Ça donne une autre plateforme pour parler d'oiseaux, d'ornithologie. Donc, comme je mentionnais, nous, on a déjà le magazine qui nous permet de parler d'ontologie. On a le bulletin Le Migrateur. Donc, quand j'ai vu les autres balados qui existaient, quasiment tous en anglais, je me suis dit, crème, ce serait le fun d'en avoir un aussi en français au Québec. Puis, ben, là, ça a tombé que tu me contactais pas mal dans le même moment. Donc, c'était vraiment super. Donc, ça va être une plateforme supplémentaire. On va pouvoir parler. Le premier épisode que tu as fait avec Pierre Bannon était vraiment super. Ça a permis de faire découvrir un ornithologue qui est une légende vivante.
Une sommité. Hein.
Une sommité, exactement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va rester. On va sûrement en faire d'autres dans les prochains épisodes. Et par en profiter aussi pour parler un peu d'actualité ornithologique. C'est-à-dire qu'avec le confinement en ce moment, on va parler, entre autres, de comment faire de l'observation dans sa cour. Éventuellement, on pourrait jaser de comment aménager notre cour pour les oiseaux, mettre des mangeoires, etc. Donc, je le vois vraiment comme un complément intéressant pour nos autres plateformes qu'on a déjà.
Oui, d'ailleurs, c'est ça. Je me souviens, une des choses qui m'a marqué quand je t'ai parlé, on n'imagine pas nécessairement, admettons, moi, je suis abonné à la revue Québec Oiseaux, puis on n'imagine pas à quel point ça demande une préparation longtemps d'avance, sortir une revue comme ça. Puis, donc, ça permet pas vraiment de parler d'actualité immédiate. Peux-tu juste développer un peu là-dessus, là, nous expliquer comment ça fonctionne avec la revue, hein, pour ceux qui sont abonnés à la revue, pour les convaincre que le podcast va être un complément vraiment intéressant aussi à ce qu'on trouve dans la revue?
Ben, c'est sûr qu'en considérant l'impression, le montage, récupérer les textes, la révision des textes, effectivement, ça peut prendre plusieurs mois avant de publier le magazine. Donc, c'est sûr que on a une chronique actualité qui dans le magazine qui sert, oui, à mettre en valeur les types de projets, d'études qu'on voit passer dans la littérature. Mais c'est sûr qu'on peut pas être, tu sais, c'est quelque chose de super intéressant, on peut pas le mentionner là à quelques, dans les semaines ou dans les jours qui suivent. Là, c'est sûr qu'on utilise des plateformes comme site web, réseaux sociaux pour ça. Mais je pense que le balado, on va avoir une possibilité un peu intermédiaire là sur la fréquence là, qu'on va diffuser le balado, où on va pouvoir effectivement être peut-être un peu plus à jour que le magazine sur certaines actualités.
Oui, puis ça peut devenir une référence aussi, disons, c'est intermédiaire aussi dans la pérennité, c'est-à-dire que les blogs ou ces choses-là, disons que c'est plus difficile de retrouver des anciens articles, etc., tandis que le balado, à un moment donné, une organisation avec les épisodes qui permet de retrouver certains sujets quand même plus facilement, j'ai l'impression, si les gens veulent revenir en arrière, retrouver un épisode qu'ils ont particulièrement apprécié. Je vais en profiter en même temps. Bon, là, ça, c'est comme un add-on que toi et moi, on est tous les deux des ornithologues amateurs de la région de Montréal, mais assurer les gens qu'on va essayer de couvrir toutes les régions. Là, tu disais, les clubs d'ornithologie, il y en a vraiment partout au Québec, puis ils sont tous affiliés à Québec Oiseau. Là, donc, on a la possibilité, n'est-ce pas, de sortir un petit peu de l'île, quoique pas physiquement en ce moment, mais éventuellement.
Ah oui, ben ça, c'est sûr. C'est sûr qu'avec la technologie, on va pouvoir parler avec des gens de l'extérieur de Montréal, mais c'est sûr que notre terrain de jeu à Québec Oiseau, c'est le Québec au complet. Donc, on a des clubs autant en Abitibi, en Gaspésie, au-delà de la Madeleine, à Laval, au centre du Québec, etc. Donc, on a vraiment des clubs dans toutes les régions du Québec. Puis, on va pouvoir parler des sites d'observation que dans toutes ces régions-là, des certaines espèces d'oiseaux qui sont peut-être plus typiques de certaines régions, de différentes initiatives. Il y a plusieurs clubs là, qui ont des super belles initiatives là, pour suivre et protéger les oiseaux dans leur coin de pays. Donc, on va se faire un point d'honneur d'avoir une représentativité là, de toutes les régions dans notre balado.
Tu dis que tu représentes le loisir ornithologique pour le Québec. Peut-être juste en conclusion, évidemment, là, toi, t'es vraiment, tu baignes là-dedans là, puisque tu travailles là-dedans à temps plein. Dis-nous donc, pourquoi est-ce que le Québec, c'est un endroit où c'est le fun de faire de l'ornithologie? C'est quoi les avantages qu'on a au Québec au niveau ornithologique? Pourquoi? Comment on convaincrait quelqu'un de l'extérieur de venir faire de l'ornitho au Québec?
Bien, on a plusieurs attraits intéressants qui sont, bon, évidemment, les plus spectaculaires, je pense, tout de suite. La migration de l'Oie des Neiges, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez, je dirais, typique du Québec. T'sais, moi, j'ai vécu 5 ans au Nouveau-Brunswick, puis de l'Oie des Neiges, c'était assez difficile à observer. Puis quand on l'observait, c'était en petit nombre, puis il n'y avait pas de site là, équivalent à Cap-Tourmente, Réservoir Baudette. Ça, je dirais, c'est un point qui est quand même intéressant. T'sais, tu me demandes pour convaincre quelqu'un de l'extérieur de venir au Québec. Il y a ça. Évidemment, la commune de Fou-de-Bassan, c'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire.
C'est une des plus grosses en Amérique du Nord, ou peut-être même la plus grosse, là, je suis plus
certain. Ouais, je pense que c'est en la Terre-Neuve qui est la plus grosse en Amérique du Nord, mais effectivement, c'est une des plus grosses, là, qu'on a. Une espèce, si on veut convaincre quelqu'un de venir au Québec, une espèce qui est peut-être moins spectaculaire, je dirais, mais qui est quand même intéressante parce qu'on, le Québec, on abrite plus de 50% de la population, puis je pense pas même 90% de l'habitat potentiel. C'est la griffe de Bicknell, qui est une espèce, là. On n'a pas d'espèce endémique au Québec, ni même au Canada, mais la griffe de Bicknell, c'est ce qu'on a, qui se rapprocherait le plus de la définition d'une espèce endémique.
Oui, qui niche dans les Appalaches, en fait, là, qu'on retrouve entre autres dans le coin du Mont Mégantic.
Exact. Sur la rive nord, là, les réserves fauniques des Laurentides, etc., là, il y en a, Côte-Nord, en Gaspésie, on peut en trouver, mais c'est ça, c'est vraiment une espèce qui est très localisée, puis qu'au Québec, on a la chance d'en avoir plusieurs.
Ben écoute, merci beaucoup Jean-Sébastien. De toute façon, je pense que les gens vont éventuellement bien te connaître parce qu'on va sûrement te réinviter au podcast. On va maintenant peut-être aller parler avec Marie-Hélène Haché du programme Des oiseaux à la maison. Merci d'avoir été là. Puis merci aussi pour ton soutien au projet.
Ben, merci à toi. J'ai vraiment hâte d'entendre les prochains épisodes.
Et maintenant, on rejoint Marie-Hélène Haché à Québec. Marie-Hélène, tu es coordonnatrice des programmes de sciences participatives pour Québec Oiseau, aussi biologiste de formation. Je m'en voudrais de ne pas mentionner aussi qu'en 2019, avec l'équipe de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, vous avez été nommée scientifique de l'année 2019 par Radio-Canada. On te félicite par ailleurs. Tu es ici pour nous parler du programme Des oiseaux à la maison. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ce programme-là est arrivé, comment vous l'avez monté, pourquoi vous l'avez monté? C'est un tout nouveau programme de Québec Oiseau.
Oui, c'est un programme dont on est très fiers. Il a vu le jour, à la fin du mois de mars. C'est en fait une invitation qu'on a reçue du scientifique en chef du Québec. Donc, le bureau du scientifique en chef est intéressé à partager avec nous, à participer avec nous à un programme qui ferait la promotion de l'observation des oiseaux, mais à partir de la maison. À ce moment-là, ben nous, on lui a proposé une formule et ça a été très apprécié. Donc, on a pu démarrer le projet le 3 avril.
Quelle forme ça prend exactement, là, donc, des oiseaux à la maison? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que les gens étaient appelés à faire?
Le projet s'adresse quand même à une assez grande diversité de personnes, c'est-à-dire, en gros, c'est pas compliqué, là. Il s'agit juste d'observer les oiseaux à partir de chez soi. Donc, ça peut être des oiseaux dans sa mangeoire, des oiseaux qu'on voit passer au vol, ou des oiseaux qu'on entend chez les voisins. Mais le principe est qu'on reste chez soi. Le but, c'est de faire découvrir aux gens, finalement, qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux qu'on peut penser à partir de notre propre cour. Puis c'est surprenant, des fois, là, comme moi, personnellement, j'habite à Beauport, dans un quartier résidentiel où il n'y a pas tant d'arbres que ça, une végétation assez réduite, si je peux dire. Je vois quand même dans ma cour là, une quarantaine d'espèces seulement au mois d'avril. Nous, c'est un des buts du programme, là, c'est vraiment faire découvrir aux gens que les oiseaux sont partout, peuvent les observer de chez eux. Et au lieu de courir après les oiseaux, comme on fait souvent, nous, les observateurs, ben, c'est de laisser les oiseaux venir à nous. Donc, ça, c'est un concept qui est intéressant. Alors, il y a la découverte des oiseaux, puis aussi la découverte de eBird, donc d'une certaine méthodologie scientifique qu'on invite les gens à découvrir. Donc, eBird, c'est une base de données mondiale sur les oiseaux avec des centaines de milliers de mentions. Puis, c'est très, très facile à utiliser. Donc, il y a vraiment un côté, si on veut, plus général de découverte des oiseaux. Puis, il y a le côté plus scientifique où on invite les gens à rentrer leurs données dans eBird. Et à la suite de ça, il y a André Desrochers, qui est chercheur et biostatisticien à l'Université Laval, qui va se charger d'analyser les données et de présenter un rapport qui va synthétiser là, les résultats des observations qui ont été faites pendant le programme.
Donc, il y a des vrais scientifiques qui vont utiliser ces données-là que les gens vont avoir acquises de chez eux, de leur balcon, dans leur cour, puis qui vont présenter un rapport avec des conclusions. Là.
Oui, exactement. Donc, il va y avoir André Desrochers, qui est vraiment spécialisé en ornithologie, qui est connu, très connu dans la communauté scientifique ornithologique au Québec. Alors, lui, ça fait longtemps qu'il fait des recherches avec les données d'eBird. Parce que ce qui est intéressant avec eBird, c'est que la masse de données qu'il y a là-dedans est phénoménale. Alors, on peut vraiment sortir des tendances, par exemple, bon, est-ce que les oiseaux arrivent plus tôt ou plus tard une année? Est-ce que l'abondance de telle espèce est plus élevée cette année que l'année dernière? Puis, au Québec, on a un réseau qui est quand même très large d'observateurs. Donc, il y a des chercheurs qui peuvent utiliser les données eBird à la grandeur de la planète. Mais nous, pour les besoins du programme, André va utiliser les données qui ont été générés par les participants depuis le 3 avril, puis il va faire un rapport avec ça. Par exemple, il pourrait sortir des informations sur quel est le nombre de participants dans telle ou telle région, combien de feuillets ces participants-là ont fourni, quelles sont les espèces les plus fréquentes, montrer aussi des tendances par rapport aux années passées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je ne pourrais pas exposer là, tous les détails de ce qu'il va faire comme analyse, là, mais... Il y a vraiment beaucoup de possibilités.
Effectivement. D'ailleurs, c'est une des choses qui est importante, j'ai l'impression. On n'imagine pas nécessairement, mais bon, oui, il y a des gens dans les universités qui travaillent sur les oiseaux, qui font de la recherche, mais ça n'empêche que ce n'est pas des centaines et des centaines et des centaines de personnes au Québec qui s'occupent de ça. Donc, lorsqu'on a la possibilité d'avoir accès à une, disons, une banque d'ornithologues amateurs, là, quelques milliers de personnes qui font de l'observation, bien, ça procure une quantité de données qu'on n'est pas vraiment en mesure d'aller chercher autrement, là, n'est-ce pas?
Bien, ce qui est intéressant avec eBird, c'est que, dans le fond, c'est pas l'utilisation ne se limite pas aux chercheurs. Donc, si, par exemple, Québec Oiseau voulait avoir des données sur les rondelles de rivage, bien, peut faire une demande de données à eBird. Donc, les organismes de conservation des individus peuvent faire des demandes de données. Puis, eBird envoie les données pour les années souhaitées, les régions souhaitées, les espèces souhaitées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités là, d'acquérir des données. Puis, quand c'est des espèces qui sont sensibles, donc des espèces en péril, par exemple, ben là, il y a certaines conditions à respecter, là, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir des données sur n'importe quelle espèce. Alors, il y a le côté scientifique qui est vraiment intéressant, mais il y a aussi un côté citoyen qui est intéressant. Là, je pense au groupe de conservation, mais ça peut être aussi pour des étudiants, des écoles primaires, des écoles secondaires, etc.
Là. Et puis là, donc le programme des oiseaux à la maison, lorsqu'on veut commencer à le faire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait de l'observation depuis la maison? Bon, là, tout le monde est en confinement. On ne peut pas vraiment sortir beaucoup. On ne peut surtout pas sortir de notre région, aller... faire de l'ornitho aux quatre coins du Québec. Donc, comment on fait? Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, aux gens qui veulent commencer pour faire ces observations-là?
Bien, nous, en fait, on offre des outils pour les gens qui sont débutants. Par exemple, là, on a un graphiste, Guillaume Charret, là, qui nous a fait des super belles planches d'identification. des 30 espèces les plus communes aux mangeoires là, entre le mois d'avril et le mois de mai. Puis pas seulement aux mangeoires, là, mais c'est aussi les oiseaux les plus fréquents ou les plus communs dans nos cours environ à cette période-là. Donc ça, c'est vraiment comme un outil de base. Les gens aussi peuvent utiliser évidemment des guides papier pour identifier les espèces. Puis nous, on leur donne, on a une infolettre, en fait deux infolettes qui sont envoyées chaque semaine où on leur donne des outils, entre autres d'identification des champs. On va leur proposer des applications pour identifier les oiseaux. Puis parmi ces applications-là, il y en a qui sont très, très simples. Par exemple, l'application va poser 5 questions seulement. C'est quoi la grosseur de l'oiseau, la couleur, c'est quoi son comportement, etc. Puis avec seulement 5 questions, c'est surprenant de voir à quel point on peut avoir des résultats qui sont bons. Donc, des outils d'identification. Puis on a aussi, on pense aussi aux enfants, parce que bon, les enfants sont confinés aussi. Donc, on offre parmi les outils des dessins à colorier pour les enfants. Puis, ce qui est le fun, c'est que en ornithologie, en général, l'âge moyen des observateurs est quand même assez élevé. Puis souvent, les clubs nous disent qu'ils n'ont pas de relève. Puis on s'est rendu compte avec ce programme-là qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient intéressés puis qui même, eux, nous envoyaient des observations, des photos qu'ils avaient prises dans leur cours. Fait que c'est vraiment... Oui, oui, c'est vraiment le fun. Puis il y en a un, entre autres, un petit garçon de 9 ans là, qui m'a envoyé une question sur un faucon qu'il avait vu, puis il était pas sûr de son observation.
Oh, il y en a même en ville, des faucons, autant à Québec, à Montréal, partout, c'est possible.
Le faucon émérillon est quand même assez, assez répandu. Puis c'est ça, tu sais, comme pour commencer, dans le fond, ça prend un peu d'outils, donc on essaie de fournir des outils. Puis sinon, je dirais, ça prend une mangeoire. Puis à partir de ça, des jumelles, idéalement. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui prennent des photos. Mais l'appareil photo, c'est optionnel, dans le fond. Des fois, ça peut être utile pour identifier les espèces si on a un bon objectif. Puis ça peut aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça peut servir de preuve aussi. Des fois, on n'est pas certain. Puis c'est là que notre groupe Facebook est très utile parce que bon, on a un groupe Facebook en parallèle, là, qui, dans le fond, fait partie du programme aussi. Donc, ben, sur le groupe Facebook, ce qui est le fun, c'est que les gens partagent beaucoup, beaucoup leurs observations. Puis, quand les gens sont pas certains des oiseaux qu'ils ont vus, s'ils ont pris une photo, ben, ils postent la photo. Puis là, il y a plein d'autres personnes qui vont partager, qui vont dire, ah, moi, je pense que c'est telle chose ou telle chose. Puis, il y en a là-dedans qui sont très expérimentés, là. Donc, on a vraiment de tout, là. Il y a des gens qui sont très débutants. Il y a une personne, entre autres, qui nous a écrit, ah, c'est le fun, la semaine passée, je savais même pas c'est quoi un bruant. Puis là, j'en ai 3 espèces dans ma cour. Puis, il y a des témoignages comme ça, beaucoup, beaucoup, là. Les gens apprécient beaucoup de découvrir, c'est ça, de commencer à faire de l'observation. Puis, souvent, c'est des choses que les gens voulaient faire depuis un bout de temps. Puis là, avec le confinement, ben, ça leur a offert une occasion de le faire.
Oui, puis ce que j'allais dire aussi, on parle des enfants, période avril, mai, bon, c'est une période qui est quand même critique lorsqu'ils sont à l'école, ils commencent à avoir des examens, etc. Mais pour l'observation d'oiseaux, c'est la plus belle période de l'année. Là, on est en plein dedans en ce moment. Donc, pour initier quelqu'un, là, au niveau de la diversité, les oiseaux s'en vont pour faire leur nid, donc ils vont avoir leur plus belle couleur pour pouvoir séduire un partenaire. Donc, vraiment, là, c'est un bon moment pour initier quelqu'un à l'ornithologie. Hein.
Oui, puis ce qui est bien avec le mois d'avril, c'est que les oiseaux arrivent, mais c'est un peu au compte-gouttes. Donc, tu sais, on commence par se familiariser avec les oiseaux qui sont ici à l'année. Tout le monde connaît les mésanges à tête noire, mais bon, les moineaux, c'est pas toujours évident parce que les femelles peuvent ressembler à des bruants, peuvent ressembler à des roselins. Donc, c'est vraiment comme la première étape, c'est de se familiariser avec les oiseaux qui sont ici toute l'année. Donc, ils sont déjà ici à la fin mars, début avril. Puis là, petit à petit, il y a des espèces qui se rajoutent. Puis c'est pas encore le gros rush là, de la mi-mai jusqu'à la fin mai, là, où là, vraiment, beaucoup, beaucoup d'espèces arrivent. Donc, c'est pas trop difficile. On n'est pas encore dans les paludines, oui. On n'est pas encore dans les moucherolles, à part le moucherol pédis. Ça fait que oui, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne période parce que c'est la migration printanière, donc les oiseaux reviennent, mais ils reviennent quand même petit à petit, donc ça laisse une chance aux personnes de s'adapter là, puis d'en apprendre.
Oui, puis tu parlais aussi des photographies, etc. Je pense que les gens imaginent peut-être pas, si vous enregistrez un oiseau, un champ d'oiseau avec votre téléphone cellulaire ou que vous prenez une photo, bon, les ornithologues d'expérience n'ont pas besoin d'énormément d'informations pour vous aider. Donc, quand tu dis ils prennent une photo, souvent les gens vont être capables de les identifier même avec une photo relativement floue. Là, on n'a pas besoin d'un tas d'une photo digne d'un magazine pour savoir c'est quoi l'oiseau des fois?
Non, vraiment pas. Une photo prise avec le cellulaire, ça suffit pour identifier un oiseau. Une bonne suggestion aussi là, d'enregistrer les chants. Parce qu'évidemment, là, les oiseaux, des fois, t'as un petit oiseau au sommet d'un arbre, là, c'est commence à être un challenge à identifier, mais un chant, ça peut être suffisant là, dans la plupart des cas pour identifier un oiseau, même un cri des fois. Alors, c'est ça, les gens qui ne savent pas trop, mais qui ont un oiseau qui chaque matin chante dans leur cour et qui fatigue parce qu'ils ne savent pas c'est quoi, ben la meilleure chose à faire, c'est de l'enregistrer. Puis il existe aussi une application maintenant là, qui s'appelle BirdNet, si je me trompe pas, puis qui propose d'identifier les oiseaux selon un enregistrement. Personnellement, je l'ai testé, j'ai fait 2 tests, puis j'ai réussi 1 test sur 2.
C'est pas tout à fait la note de passage.
Non, c'est ça, mais en même temps, j'ai pas un gros échantillon de tests. Là. Mais c'est plus le fun quand même de poster ça sur Facebook puis de le faire identifier par d'autres. Puis eBird aussi offre cette option-là, donc de partager des photos et des enregistrements. Donc, si par exemple on a un feuillet puis on a 10 espèces là-dessus, puis il y en a une qu'on n'est pas certain, mais on a un enregistrement, bien on peut mettre ça en annexe à notre feuillet, puis le réviseur va pouvoir voir si c'est la bonne identification ou pas.
Ah oui, d'accord. Oui, ça c'est sûr, de toute façon. J'ai la ferme intention qu'éventuellement, à la balado-diffusion, on fasse un test comparatif de différentes applications qu'on peut utiliser pour l'identification des oiseaux au Québec. Là, ça, c'est certain que j'aimerais ça éventuellement qu'on fasse ça plus en détail, là, c'est certain. Sinon, le programme va prendre fin le 15 mai, malheureusement. Là, donc, on est vraiment plus vers la fin de ce que j'ai compris. Il y a vraiment une participation là, au-delà de vos espérances. Tu peux nous parler un peu du succès de ce programme-là, puis à quel point ça a été suivi?
Ah oui, il y a vraiment eu un très, très grand succès. Là, on a, la dernière fois que j'ai regardé, je pense qu'il y en avait 5300 personnes d'inscrites. Parmi ces personnes-là, il y a à peu près la moitié qui participent au groupe Facebook. Puis, on a 6000 listes d'observations qui ont été partagées dans eBird. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup. Puis tout à l'heure, j'avais avec un responsable d'eBird à Cornell, donc à New York, là, les gens qui coordonnent eBird. Puis il me disait que depuis l'année passée, on avait une augmentation de 43% du nombre de listes d'observations qui ont été soumises. Fait que moi, ça m'étonnerait pas que le programme y ait pour quelque chose. Là. Donc oui, c'est vraiment là au Québec, il y a de l'action ces temps-ci, le côté observation. Puis c'est ça, c'est vraiment eu un très grand succès. C'est sûr qu'avec le déconfinement, éventuellement, il y a des gens qui vont se tourner vers l'observation plus sur le terrain, pas nécessairement de chez eux. Mais il y a toujours quand même des gens qui apprécient de faire une liste de leur maison. Puis ça existait avant, là, même dans eBird, il y a une catégorie d'observation qui sont les observations dans la cour. Puis on a des statistiques là, sur les cours de, je pense, c'est tout le monde à l'échelle de l'Amérique du Nord. Il y a des personnes qui ont des cours extraordinaires là, qui vont avoir comme 250 espèces dans leur cours.
Ah oui, j'imagine.
Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont continuer à utiliser eBird à faire des observations dans leur cours. Il y a des gens peut-être qui continuent à utiliser eBird puis qui vont aller sur le terrain puis qui vont découvrir des endroits. Nous, on va faire en sorte le plus possible d'encourager les gens à continuer de s'intéresser aux oiseaux, de continuer à utiliser eBird, puis d'explorer d'autres moyens quand les choses vont être revenues à la normale, comme par exemple de joindre un club d'ornithologie. On sait que les clubs, c'est une ressource très précieuse. Justement, il y a des gens là-dedans qui connaissent les oiseaux de la région sur le bout des doigts, qui sont là, qui ont une expérience incroyable à partager. Donc, quand les choses vont être revenues à la normale, ben, on va encourager les gens aussi à aller vers ça.
Les clubs permettent aussi de découvrir des endroits. C'est-à-dire que moi, je fais partie de la Société de biologie de Montréal, puis ils m'ont fait découvrir des endroits qui sont très, très bons pour les oiseaux. Il y a beaucoup d'espèces qui sont vraiment extraordinaires là, partout au Québec.
Oui, c'est ça qui est bien avec les clubs. Puis il y a aussi, évidemment, le rapport humain qui est le fun, là, de voir... un petit groupe, visite après visite, puis il y a toujours des gens là-dedans qui sont très, très généreux, qui sont des excellents pédagogues, puis qui vont, entre guillemets, là, prendre les nouveaux membres par la main. Là. Ça sera plus possible, ça, pendant un bout de temps, mais en tout cas...
non, surtout pas par la main, non.
On va dire au sens figuré. C'est ça, au sens figuré, ils vont les prendre par la main, puis ils vont les amener à découvrir des espèces d'oiseaux. Donc, c'est ça, nous, pour l'instant... le programme va être terminé officiellement. Donc, on ne demandera plus aux gens de partager leurs observations eBird avec le programme des oiseaux à la maison. Mais les gens vont pouvoir continuer à faire de l'observation, que ce soit de chez eux ou au fur et à mesure que les endroits publics vont ouvrir à partir des endroits publics. Puis, une chose qu'on va conserver, par contre, c'est le groupe Facebook. Donc, le groupe Facebook va demeurer là, pendant au moins quelques mois. Donc, les gens vont pouvoir continuer à partager des observations qu'ils font dans leur cours à partir de chez eux.
Ah, ben ça, c'est super. Ben écoute, Marie-Hélène, un grand merci d'avoir participé à la balado-diffusion. J'espère vraiment que ce ne sera pas la dernière fois, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir se reparler de toutes sortes d'autres sujets éventuellement. Donc, merci d'avoir été là.
Ben, ça me fait plaisir.
Et voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de Tous aux oiseaux. Je profite de la fin de l'épisode pour remercier tous ceux qui nous ont fait parvenir des commentaires, qui m'ont parlé de la balado-diffusion quand je les ai croisés sur le terrain. Inquiétez-vous pas, à 2 mètres de distance, bien entendu. Ça nous a permis de voir qu'il y a vraiment un réel intérêt, puis ça nous encourage vraiment à continuer à vous produire des émissions. En échange, n'hésitez pas à parler de notre balado-diffusion à tous ceux qui pourraient être intéressés. Parlez-en dans votre club d'ornithologie. Parlez-en quand vous croisez des gens sur le terrain qui ont l'air de s'intéresser aux oiseaux aussi. D'ici à notre prochaine rencontre, on va tous se souhaiter des belles journées ensoleillées, une belle période de migration, des belles observations proches de chez vous, et puis aussi, évidemment, dès que ça sera sécuritaire, qu'on puisse recommencer à explorer le Québec, échanger sur notre passion, puis découvrir les plus beaux espaces naturels préservés de la province et les oiseaux qui les habitent.